Pas savoir où on est ni où on va si on sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La complexité, ça consiste pas à dire « je vais rien vous raconter parce que c'est compliqué ». Comme j'ai toujours dit à mes élèves et à mes étudiants, je vous prie de ne pas me croire sur parole. Vous ne devez jamais croire quelqu'un sur parole. En histoire, en science, on ne pratique pas la confiance aveugle. Hein ? Vous allez vérifier. Alors, vérifions. On ne peut pas aborder une petite question sans aborder des grandes questions. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle mes livres sont si longs et ont tant de notes.
Annie Lacroix-Riss est professeure émérite à l'Université Paris 7. À des années-lumière des mythologies officielles, ce qu'elle explique sur notre histoire récente est terrible et stupéfiant, au point d'ailleurs de la faire passer pour une délirante complotiste. Mais comme tout historien sérieux devrait le faire, tout ce que cette chercheuse expose, elle le démontre avec diverses archives originales croisées entre elles. Car l'histoire ne se fait pas avec des opinions, mais avec des sources qui établissent des faits. Sources qui, dans chacun des livres fleuves de Lacroix-Riss, occupent effectivement des dizaines de pages de références bibliographiques d'archives concordantes et impitoyables qui rendent l'historienne inattaquable, ni en justice, ni sur le plan universitaire. On est bien incapable de démontrer que Lacroix-Riss raconte n'importe quoi, car elle établit des faits très dérangeants, notamment pour les élites industrielles et bancaires et leurs descendants. Notons d'ailleurs au passage la campagne de fermeture d'archives lancée par le gouvernement de 2021. Fermeture surtout des archives sur les années 30 et 40. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off pour un nouvel épisode de notre série autour du Congrès de Tours qui nous amène à explorer les méandres peu ragoûtants de l'immédiate après-guerre. En 1945, la guerre plus ou moins froide démarrait dès la révolution de 1917, bat plus que jamais son plein. Le combat des impérialismes occidentaux contre l'URSS implique que la France d'après-guerre ne sera épurée ni de ses traîtres, ni de ses collabos, ni dans la haute bourgeoisie industrielle et bancaire, ni chez les flics, magistrats et autres fonctionnaires qui ont prêté allégeance à Pétain et aux nazis. À la libération, quasiment tous les traîtres sont blanchis quand ils ne sont pas badigeonnés en résistants. On va aujourd'hui voir comment la France, déjà soumise aux USA, aurait pu devenir une colonie américaine dans le cadre de l'AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territories. Bonjour Annie Lacroix-Riss.
Bonjour à tous.
Après la botte nazie, les Rangers des États-Unis. La France aurait pu être encore plus vassalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour faire passer la pilule de leur domination, les nouveaux maîtres ont débarqué avec le chewing-gum et des musiques qui annoncent le rock'n'roll.
He was a famous man. Puppet Man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, a toot, he blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump a to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He blows it a to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
He's the boogie woogie bugle boy of Company B.
Boogie woogie bugle boy, The Andrews Sisters. Si les soldats de plombs allemands de 1940 ont pu en séduire certains et certaines avec leurs beaux uniformes Hugo Boss, les envahisseurs de 44 pouvaient paraître bien plus sexy. Et notamment avec le swing, le boogie-woogie, le jazz cool et toutes ces nouvelles musiques made in USA qui ont elles aussi été de terribles armes pour la guerre froide. Un pays où se jouent des musiques aussi géniales ne peut pas être complètement mauvais.
The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
1945. Les vainqueurs, USA, Royaume-Uni et URSS, sont des alliés qui n'en sont pas. Démarrée dès la révolution de 17, la guerre occidentale contre l'Union soviétique continue. Il paraît qu'elle sera froide. Vainqueur militaire du Troisième Reich au prix de 27 à 30 millions de morts, l'URSS sort de la guerre détruite, épuisé et bien incapable de continuer à guerroyer. Les soviétiques aspirent à conserver le contrôle des pays qu'ils ont libérés du joug nazi, quitte à imposer le leur, ce que les alliés feront aussi dans leur zone. Notons que si l'URSS déplore près de 30 millions de morts entre 41 et 45, les USA en comptent moins de 400 000, Europe et Pacifique y compris, soit pour un GI tombé, environ 60 morts chez les soviétiques. Mais sinon, il paraît que c'est les Américains qui nous ont libérés, hein. Les Britanniques sortent eux aussi épuisés de la guerre et dans l'incapacité de conserver leur immense empire dont ils savent qu'il va tomber sous domination américaine. Alors qu'elle a collaboré à mort, la France fait, paraît-il, partie des vainqueurs, et ce grâce à ses troupes coloniales ralliées à De Gaulle. Bah oui, hein. Pendant que les Gaulois étaient en stalag, ce sont des Noirs et des Arabes qui ont sauvé l'honneur du pays. Quant aux USA, bah c'est pas compliqué. L'impérialisme états-unien vise à la domination totale du monde. Annie Lacroix-Risse.
Le programme des États-Unis est un programme global, caractéristique évidemment d'un impérialisme dominant, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs impérialismes à tendance dominante. L'Allemagne veut toute l'Europe, elle ne veut pas seulement l'Est, elle veut l'Ouest, etc. Le Japon veut l'ensemble de la zone asiatique. Les États-Unis, leur caractéristique, c'est que, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ils acquièrent ce qu'on peut appeler une position quasiment hégémonique. On nous a dit en France, et on le croit, voilà, il y a des périodes où les États-Unis sont isolationnistes. Alors c'est très triste parce qu'ils sont isolationnistes dans l'entre-deux-guerres. C'est pour ça que malgré tous les efforts de Wilson, professeur presque nimbus de Princeton, qui est représentant des grands intérêts économiques américains, hein, il voulait bien insérer les États-Unis dans le globe, mais qu'on lui a tapé sur les doigts et que les États-Unis, sous l'influence des républicains, sont passés à une période isolationniste. C'est une énormité qui ne résiste pas à la moindre consultation d'archives. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont anglophones, ils n'ont qu'à se balader à travers les archives en ligne, Foreign Relations of the United States, en ligne, et vous vous baladez entre la fin du 19e jusqu'aux années 60-70. Vous allez regarder ce que j'appelle la position hégémonique des États-Unis. En ce qui concerne notre zone, donc la France, je m'en tiendrai au seul phénomène de l'entre-deux-guerres qui est le fait que tous les règlements financiers d'après-guerre, tous, ont été des règlements financiers effectués sous l'égide des États-Unis. C'est-à-dire que la question des réparations a été réglée, liquidée par les États-Unis. La question des dettes de guerre a été gérée par les États-Unis. Ça a donné aux États-Unis le rôle économique, financier dans la Première Guerre mondiale, pas militaire, je l'ai déjà dit, a donné aux États-Unis une position hégémonique en Europe. Cette position hégémonique, évidemment, elle ne se réduit pas avec la Deuxième Guerre mondiale, bien au contraire. J'ai montré comment en 1941, les milieux dirigeants avaient très bien perçu que ce qui s'était passé en 1918, c'était une petite plaisanterie comparée à ce qui allait se produire au lendemain de cette guerre-là. Et donc, le programme américain correspond au programme de 1899 du secrétaire d'État Hay, c'est-à-dire ce fameux programme dit de la porte ouverte, programme relatif à la Chine que se sont partagés les Européens et que les États-Unis veulent pour eux tout seuls. C'est intéressant quand même, hein? En la période actuelle, qui est une période de sinophobie délirante, les curieux iront voir à quel point la question est une vieille question, parce que le contrôle de la Chine, c'est un des objectifs de la politique extérieure, de la politique financière, de la politique économique des États-Unis. Donc ce que les États-Unis réclament en 1899, des Européens, en leur disant « vous êtes bien gentils là, hein ?» Vous êtes fait des baux amphithéotiques à 99 ans, vous êtes partagé les ports de Chine, ça ne va pas du tout comme ça, c'est pour nous. Le programme des États-Unis, c'est tout, absolument tout. Comme le disent ces chefs de l'aviation en 1942, sans aucune gêne, il n'y a pas un pays au monde où les États-Unis n'établiront pas les bases et ne poseront pas leurs avions comme ils le souhaitent. On imagine ce que ça veut dire, ça, à une époque où tous les jours, on nous rebat les oreilles avec Poutine, ses tendances expansives, etc. On a le programme qui est le programme de la fin du 19e. C'est-à-dire que les bases, il n'y en a pas beaucoup de Russes, quand il y en a trois à l'extérieur, mais il y a des centaines de bases américaines. Or, ça, c'est un programme de la fin du 19e. C'est-à-dire que je reviens à mes trois. Les Anglais, ils ont toujours eu une zone d'influence depuis l'ère du capitalisme en Europe. Bien sûr qu'ils veulent conserver tout ce qu'ils ont. Et ils veulent discuter avec Roosevelt. Roosevelt refuse de discuter. Donc ce n'est pas une question anti-soviétique ou idéologique. C'est une question de maîtrise de l'espace économique. Et quand les soviétiques qui disent en juillet 1941 avec Staline, ben nous voilà, c'est pas compliqué, on veut revenir à peu près à la situation de 1917 et on ne veut plus de frontières occidentales qui permettent l'avancée de l'Allemagne contre nous. Impossible de le discuter. Les Anglais, les Américains, les Soviétiques, trois grands alliés qui ne sont pas des alliés. Le principal concurrent des États-Unis, au contraire de ce qu'on pense, c'est la Grande-Bretagne et son empire, qui est énorme et qui permet à la Grande-Bretagne un accès aux matières premières et considéré comme absolument attentatoire aux prétentions des États-Unis. Le programme des États-Unis, c'est « toutes les colonies sont pour moi parce que mes matières premières à bas prix, je les veux, il n'y a aucune raison qu'elles soient affectées aux pays européens ». Donc, il y a cette rivalité anglo-américaine, il y a bien sûr la rivalité américano-soviétique, elle n'est pas idéologique non plus. À la fin du 19e siècle, le programme des États-Unis, et notamment le programme d'expansion chinoise des États-Unis, était absolument antagonique avec celui de la Russie. On en est là entre 1941 et 1944-45. Que Staline ait été conscient que la question de la contestation de l'hégémonie américaine presque totale en Europe, que cette question ait été considérée comme réglée par l'Union soviétique, certes, l'Union soviétique, elle a une position très claire pendant toute la guerre, et alors particulièrement claire évidemment au fil des sessions communes. Il n'y en a pas beaucoup entre Staline et les deux autres. Il y a en novembre 1943 la première rencontre à Troyes, la conférence dite de Téhéran. Voilà, on a une position sur l'Allemagne dont tout le monde sait qu'elle ne sera pas respectée par les Américains parce qu'ils veulent reconstruire l'Allemagne. Elle est le pivot de leur installation en Europe. Et puis, il y a la conférence de Yalta de février 1945. Et puis la troisième, celle de Potsdam. La guerre européenne est terminée, les 8 et 9 mai 1945, mais pas la guerre contre le Japon. Il ressort de ça que l'Union soviétique, elle est épuisée. Tellement épuisée que l'ambassadeur à Washington explique en mars 1944 que l'URSS est tellement morte des dommages que lui inflige l'Allemagne qu'elle n'aura même pas la force d'avoir une zone d'influence. Tout ce qu'on sait de la guerre est absolument incompatible avec la thèse selon laquelle les Occidentaux, États-Unis en tête, auraient eu peur de l'Union soviétique. L'Union soviétique est un animal victorieux, mais blessé quasiment à mort. Il y a un historien américain qui avait fait un article extraordinaire en 1948, au cœur de ce qu'on nous explique être la guerre froide, la peur de l'URSS, etc. Cet historien américain avait fait une étude sur la base des dossiers du département de la défense dont il ressortait la chose suivante. L'Union soviétique, qui n'avait jamais fait la guerre à personne, hein, il faut quand même le rappeler, entre 17 et 48, l'Union soviétique n'a livré aucune guerre extérieure. L'ensemble des ministères de la défense, évidemment le département d'État, savait que sur n'importe quel secteur, l'Union soviétique serait en mesure, si jamais elle avait envie de la faire, d'obtenir la capacité de faire la guerre dans les 20 ou 30 ans. Même chose, hein, regardez les archives américaines publiées. L'Union soviétique ne fait peur à personne. Elle ne faisait pas peur à De Gaulle quand De Gaulle, en 1947, pour assurer l'essor de son mouvement Rassemblement du peuple français, de son RPF fondé en 1947, faisait semblant de croire que l'Union soviétique allait nous apporter ses troupes puisqu'elle n'était qu'à quelques étapes du Tour de France. C'est grotesque.
En 1947, les Américains ouvrent officiellement la guerre froide contre l'URSS. Guerre froide annoncée par Churchill dès mars 1946 avec le discours de Fulton.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
En 1947-1948, l'Occident n'arrête pas d'alerter les populations sur le danger effroyable de l'Union soviétique, comme avait dit un célèbre sénateur américain, « to scare the hell to the American people », c'est-à-dire « foutre la trouille au peuple américain ». Il avait expliqué, ce sénateur, que pour obtenir des crédits militaires monstrueux, les faire accepter par la population, il fallait absolument foutre la trouille au peuple américain. Excusez-moi, c'est une traduction. Pour foutre la trouille aux peuples européens de la zone d'influence américaine, il était indispensable d'expliquer que l'URSS était un monstre, non seulement un monstre antidémocratique, etc., mais un monstre militairement dangereux. Or, pendant qu'ils alertaient la population et qu'ils lui ont foutu la trouille, tous rigolaient de cette espèce de marionnette qu'on gonflait à loisir et qui était bien tranquillement derrière ses frontières et qui n'en allait pas sortir comme elle n'était pas sortie de ses frontières avant qu'on ne l'attaquât. Ceux qui liront mon article, l'Occident a-t-il eu peur de l'URSS entre le Cominform et le coup de Prague? Ceux qui sont le plus au fait des reproches terribles qu'on fait à cette si dangereuse Union soviétique, ils ont entendu parler du Cominform, l'horreur, hein, 47. Ils ont entendu parler du coup de Prague, en février 1948. Ils ont très peur. Eh bien, tout le monde rit, parce que tout le monde fait la même analyse. L'URSS, la supériorité militaire, elle l'a, car elle est épuisée, mais c'est elle le vainqueur militaire. Personne n'en doute. Les zones d'influence de l'Union soviétique, toute la zone que l'Union soviétique va libérer. Mais tout le monde sait que l'Union soviétique, quand elle aura posé les armes, quand elle aura définitivement écrasé la Wehrmacht, elle se remettra à rebâtir son économie, dont je rappelle quand même que la partie européenne est détruite. Est-ce que aujourd'hui on a une idée de ce qu'est le niveau de destruction d'un pays qui a perdu entre 27 et 30 millions de sa population et dont plus une usine n'est debout dans la partie européenne? Eh bien, la ville de Stalingrad, c'est ce qui ressemble à l'URSS européenne. L'URSS, elle est HS pour discuter quoi que ce soit de la supériorité américaine. Et l'URSS respecte scrupuleusement cette idée qui s'élabore évidemment jusqu'à Yalta, que les États-Unis, ils auront une partie énorme de l'Europe, qu'ils y feront la loi. C'est tellement vrai d'ailleurs que l'Union soviétique, elle ne s'occupait pas de ce qui n'était pas sa zone. Et quand elle a dû aller dans des zones scandinaves traquer les Allemands et les virer de leur base, d'abord elle s'en est retirée très vite. Les États-Unis n'ont jamais quitté une base dans laquelle ils avaient mis les pieds, hein, et particulièrement en Scandinavie. Tous les diplomates le disent. L'Union soviétique, elle est impeccable. En Norvège, ça va se libérer avec une solution attentiste. Nous, on n'intervient pas. Ils sont prêts, hein, les soviétiques. Et c'est comme ça partout.
Histoire de rassurer les alliés, Staline a dissous la Troisième Internationale en 1943. L'URSS n'interviendra pas dans les zones contrôlées par les alliés, même dans des pays où les partis communistes sont puissants. Cause d'un effroyable drame en Grèce, où la résistance communiste majoritaire a militairement vaincu les Allemands. Mais pour Churchill, pas question de laisser les Rouges contrôler leur propre pays qu'ils ont eux-mêmes libéré. Les Anglais vont donc faire la guerre aux communistes grecs, les emprisonner et réarmer les collabos grecs. Imaginez un peu qu'en France, les Anglais aient pourchassé les résistants et réarmé la milice. Ben c'est ce que Churchill a fait en Grèce, en connivence avec les nazis. Mais sinon, Churchill était un gars très sympa, hein, qui fumait le cigare et qui faisait des bons jeux de mots.
Les Anglais qui se sont arrangés avec les Allemands, parce qu'ils sont arrangés avec les Allemands, et on a les sources, hein. Les Anglais ont écrabouillé à partir de l'automne 1944 la résistance communiste. et ont entamé ce qu'on appelle la guerre civile grecque, qui, comme toutes les autres guerres civiles, n'a jamais été une guerre civile. Le rapport des forces était écrasant en faveur des communistes en Grèce. Il n'y a que la résistance communiste qui est confrontée en Grèce aux Allemands, et la résistance communiste, c'est les Allemands qu'elle poursuit. C'est les Allemands qu'elle vainque quand Churchill décide de faire la guerre aux communistes. C'est qu'à partir du moment où les Anglais ont décidé de sauver tous les éléments collaborationnistes, y compris d'ailleurs la monarchie, toutes les forces de la réaction et toutes les forces anti-résistance, évidemment, sont soutenues par l'Angleterre, eh bien, même dans cette conjoncture, on ne peut pas dire qu'il y a un parti communiste qui soit responsable de manquements à la réalité du rapport de force. Alors je sais bien, parmi les tenants, ce que j'appellerais les forces gauchistes, hein, qui font éventuellement aux communistes le reproche d'avoir trahi la révolution. Enfin, faut être raisonnable. La question ne s'est jamais posée, et pas seulement parce que les communistes étaient des petits soldats aux ordres de Staline. On a un exemple d'ailleurs. Les Américains en Belgique, ils déclenchent un bain de sang à une manifestation à Bruxelles, d'émanation de la résistance où les communistes, bien sûr, sont majoritaires. Ils ne l'ont pas choisi, hein. Ils ont été majoritaires partout dans l'action. Bon, il y a eu un bain de sang. Ça n'a pas été le bain de sang qui a pris les proportions de la Grèce, mais tout le monde avait compris que l'hégémonie américaine, c'est le fruit d'un rapport de force. Je vais donner un exemple pour qu'on se rende bien compte qu'on est bien loin de l'idéologie. L'accord est fait pour que l'Union soviétique n'aille pas au-delà de. Je rappelle quand même que l'Union soviétique lance l'opération Bagration.
Gigantesque offensive de l'URSS de juin 44.
Une occasion de perte ravageuse pour soulager les Anglo-Américains et leur permettre le débarquement. Car c'est l'effort militaire soviétique de Bagration qui permet aux Américains et aux Anglais de débarquer. Printemps 1944, les États-Unis et l'Angleterre représentent 6 à 7% de l'effort militaire du front. Je ne dirais pas que l'arrivée des Américains relève de la promenade de santé. Mais enfin, soyons sérieux. Les pertes sont minimes. Quand les Allemands ont voulu résister aux Américains, ils leur ont donné une leçon. L'offensive des Ardennes au tournant de l'année 1944. Les Allemands, ils font des ravages épouvantables en 1944. On connaît tous le 10 juin 1944, le village martyr de Radour-sur-Glane. On connaît moins d'autres villages martyrs.
Dès l'été 41, sur le front de l'Est et ailleurs, comme en Grèce par exemple, les nazis commettent partout des milliers de Radour-sur-Glane.
Tactique allemande qui a consisté depuis la fin 43 et officiellement depuis février 1944 à appliquer en Europe occidentale la même ligne qu'en Europe orientale, contre la résistance. À partir de janvier 1945, il y a à peu près 270 divisions allemandes contre l'Union soviétique. Il y en a 27 sur le front occidental, dont 26 consacrées à évacuer toutes les forces militaires vers la zone occidentale. Après le petit moment très désagréable, l'offensive des Ardennes, les États-Unis entrent en Allemagne comme dans du beurre. Les Américains vont être autorisés par les Soviétiques à rentrer dans leur zone, ce qui coûte extrêmement cher aux Soviétiques, et notamment d'ailleurs ce qui leur coûte toutes les réserves d'or qui étaient situées dans leur zone, en particulier d'ailleurs dans les mines de Merkers en Thuringe, où se trouvaient consignées 200 tonnes d'or volées, plus ce qu'il y avait par ailleurs, ramassées par les États-Unis, expédiées vers les États-Unis et qui ont échappé à l'Union soviétique, ravagées par la guerre.
USA compte traiter les pays libérés comme des colonies, et y compris la France. Et ce, en conservant les cadres de la collaboration, ce qui sera aussi la politique de De Gaulle. Les Américains ont même fait imprimer des francs où ne figure pas la mention « République française ». Ce plan colonial, c'est l'AMGOT. Annie Lacroix-Risse.
C'est quoi l'AMGOT ? L'American Military Government of Occupied Territories, c'est-à-dire le gouvernement militaire américain dans les territoires occupés. La ligne, c'est partout où les États-Unis seront vainqueurs contre les vaincus, les pays de l'Axe, l'Italie, l'Allemagne, à l'Est le Japon, ils établiront un gouvernement militaire. Ce gouvernement militaire aura absolument toute autorité, militaire et civile.
L'AMGOT est appliquée dans les colonies françaises d'Afrique du Nord où les Américains ont débarqué en 1942. Élites et cadres collabos de Vichy, ralliés aux Américains, restent en place et se métamorphosent en résistants. Puisque le gouvernement d'Alger n'est surtout pas épuré, on sait donc que la France ne le sera pas non plus. Comme marionnette, les Américains choisissent d'abord Darlan, ex-chef du gouvernement de Vichy, puis commandant en chef des forces de Vichy. Darlan se rallie aux alliés en 1942 et reçoit des Américains le titre bidon de haut commissaire pour la France en Afrique. Mais Darlan est mystérieusement assassiné. N'y voyons surtout pas la main de De Gaulle. Hein. Les Américains choisissent alors le général Giraud, marionnette molle que les Allemands leur ont livrée à la suite d'une grotesque mascarade d'évasion. Il paraît qu'à 63 ans, Giraud se serait échappé des hauteurs d'une forteresse allemande en se tressant une corde de drap comme dans les films. C'est ridicule. Mais l'objectif des nazis, comme des Américains, c'est tout sauf De Gaulle.
Les États-Unis, évidemment, officiellement, c'est parce qu'ils n'aiment pas De Gaulle, qu'ils trouvent que De Gaulle est un dictateur. Leur amour de la démocratie leur fait détester ce dictateur. Ils ont adoré Vichy. Je fais partie de ceux qui ont montré que les États-Unis s'étaient entendus comme l'arrange en foire avec Vichy. Tellement même qu'ils avaient essayé tout ce qui était possible pour faire barrage à De Gaulle. Non pas du tout parce que De Gaulle était un dictateur, ils avaient fait usage des dictateurs avec grande abondance depuis que l'arrière-cour latino-américaine leur était dévolue, je ne dirais pas tout le 19e, mais presque, mais alors à partir de la fin du 19e systématiquement. Les États-Unis ne sont pas du tout ennemis des dictatures. Ils adorent les dictatures qui leur permettent d'établir en totale liberté leur tutelle, leur mainmise économique sur les zones qu'ils estiment devoir être les leurs. Clé de fonctionnement des États-Unis depuis lors.
À la Maison-Blanche,
Il se disait par exemple du dictateur cubain Batista, c'est une canaille, mais c'est notre canaille.
Thank God, they're on our side. Grâce à Dieu, ils sont de notre côté. C'est des salauds, c'est des ordures, des pourris, tout ça, mais ils sont de notre côté. C'était bon pour le Batista de Cuba, c'était bon pour l'ensemble de l'Amérique latine, c'était bon pour la Corée, c'était bon pour tout. Donc De Gaulle, il ne le haïssait pas parce que De Gaulle était un apprenti dictateur. Non seulement ils adoraient les apprentis dictateurs, mais ils adoraient les dictateurs avérés. À partir du moment où ces dictateurs avérés ne s'opposaient pas à l'expansion des États-Unis là où ils souhaitaient établir leur expansion, c'est-à-dire à peu près partout. Il n'y a pas une solution qu'ils n'ont pas tentée contre De Gaulle. Parce qu'ils avaient décrété que la France était un pays ennemi. On eût pu l'accepter à partir du moment où les États-Unis eussent lutté contre Vichy, mais ils avaient été avec Vichy dans les meilleures relations. Il y a d'ailleurs un grand espion américain, il s'appelle William Langer. Il était membre de la CIA, après avoir été membre éminent de l'OSS. Il a fait, en 1947, un bouquin passionnant. Il suffit de connaître un peu les archives pour savoir ce qui relève du mensonge et ce qui relève de la vérité. Qu'est-ce qu'il y établit dans ce livre qui s'appelle « Our Vichy Game », notre jeu à Vichy, notre jeu de Vichy. On lui a fait faire le livre pour justifier le soutien américain à Vichy jusqu'au bout. Parce que Vichy était démocratique? Mais non! Parce que Vichy, mourant de trouille de se retrouver nez à nez avec le peuple français et dans des conditions où Vichy n'aurait plus la protection des troupes allemandes, savait très bien qu'il fallait en passer par les desiderata des Américains. Et les Américains, qui avaient besoin de gens particulièrement dociles, se plaisaient particulièrement avec Vichy, parce qu'on pouvait faire de Vichy tout ce qu'on voulait. Plus ils étaient coupables, plus ils étaient dociles, parce que, évidemment, ils ne pouvaient pas être en tête à tête avec le peuple français. Tout se fait à partir de 40-41. Tous les programmes de préparation du débarquement en Afrique du Nord, pas en 42. En décembre 40, Roosevelt envoie Robert Murphy pour préparer le débarquement. Moi, je peux vous le dire, j'ai épluché toute la série Afrique au Quai d'Orsay. Ça s'appelait Afrique le Vent à l'époque. À partir de 41, il n'y a personne qui ignorait dans les milieux bien informés, comme on dit, que les États-Unis étaient là pour préparer le débarquement en Afrique du Nord. Il faudra partir de ce que les Américains appelaient les stepping stones, les pierres à partir desquelles on sautille. Et les stepping stones, c'est les bases non seulement du débarquement, mais c'est les bases de la maîtrise future des empires coloniaux. Car ce que les États-Unis avaient échoué à faire en 1918, c'est-à-dire la saisie de tous les empires coloniaux, et ce que je dis pour la France est valable pour tous les empires coloniaux. C'est valable pour l'empire colonial britannique, pour le belge, pour le néerlandais, pour le portugais. C'est une stratégie globale. Pour la maîtrise de l'Europe, elle passe donc par le débarquement en Afrique du Nord. De Gaulle se bat contre Lamgotte comme un beau diable, parce que les Américains, à peine débarqués le 8 novembre, la première chose qu'ils font, c'est évidemment de conclure, courant novembre, avec Darlan, l'image même de la collaboration la plus abominable. Et Darlan, c'est quand même celui que les Américains utilisent pour officiellement diriger l'Afrique du Nord. Mais bien entendu, ils dirigent rien du tout. Lamgotte, il est réalisé en Afrique du Nord. C'est les accords Darlan-Clark. Ils ont tenté d'ailleurs avant de passer par Végan. Ils ont passé leur temps à préparer des accords. On fait Lamgotte en Afrique du Nord. Il y a d'abord les directives du 12 septembre 1942. Consigne de Roosevelt à Eisenhower, chef militaire, et à Murphy, chef politique, en Afrique du Nord. 2 mois avant le débarquement. Ce sont les États-Unis qui dicteront tout. Pouvoir civil, pouvoir militaire. Et toutes les structures de Vichy restent intactes. La seule règle, c'est pas d'avoir été résistant. La seule règle, c'est le ralliement quand nous arrivons. Est-ce que la personne qui a lu les instructions de Vichy peut comprendre ce qu'est la Kaamelott qu'on nous a fourguée sous le nom de Vichisto-résistance? Ils sont tous résistants, puisqu'il suffit en novembre 1942 de se rallier au panache blanc américain pour être maintenu. Tout l'appareil est maintenu. Bien entendu, les Américains ne réussissent pas à éliminer De Gaulle et à imposer Giraud après que leur chéri Darlan a été éliminé. Mais enfin, il n'empêche, la France est traitée par les États-Unis en pays ennemi. Ça a été présenté au printemps 1944 comme le pays qui a reçu le plus de bombes. Je rappelle d'ailleurs que ces bombardements n'ont eu aucun effet sur l'appareil économique productif allemand. 75 000 morts. Donc, ce que les populations ont perçu, c'est que la France était traitée en pays ennemi. Alors, on est dans cette conjoncture avec, au sein du CNR, je dirais une division qui a toujours été celle du CNR, entre d'une part tous les partis, de gauche ou de droite, qui considèrent que la solution du maintien du statu quo socio-économique, c'est les États-Unis, dans des conditions qu'on ne discute pas. C'est le terrain de ma thèse d'État sur ce qui s'est passé à la Libération, avec une SFIO qui dit pas gênée du tout, la France est un pays affaibli, de toute façon c'est sur cette base-là que les élites avaient décrété que c'était très bien de faire venir les Allemands, vu qu'on pouvait se faire harakiri tellement on était mauvais. Eh bien, ça a continué après la Libération. Moi, j'ai travaillé sur les archives de la SFIO. Eh bien, la SFIO, elle se targue de ce qu'on n'a pas les moyens de discuter les conditions. On imagine ce que ça donne à droite. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui disent « ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, de toute façon, on n'a pas les moyens de discuter ». Et les communistes, qui savent bien qu'il ne va rien se passer et que le statu quo sera maintenu, il était quand même difficile pour les communistes qui avaient un certain nombre d'émissaires à l'Assemblée consultative et même dans les strapontins gouvernementaux de rien du tout avec des pouvoirs nuls, poste de pure représentation. Mais les communistes, ils sont informés de ce qui se passe à Alger. Donc tout le monde sait qu'il y aura un statu quo total. Mais avec ce rapport des forces particuliers qui fait les réformes de la Libération. La résistance de De Gaulle et des forces qu'il soutenait, en apparence gouvernementale, la SFIO et le MRP.
Mouvement républicain populaire, parti de droite fondé en 1944 par des collabos.
Comme disaient communément les communistes et la police, la machine a ramassé les pétainistes. Parce qu'évidemment, il n'y avait plus de parti de droite. Et donc, on a ces socialistes qui sont sur les mêmes positions que la droite et l'extrême droite, qui en plus, évidemment, a dû signer le CNR parce que ça permet de gommer tout ce qui a été fait entre 1939, 1940 et 1944, et le bilan est lourd. Et puis il y a de l'autre côté les communistes qui ont un poids nul dans le gouvernement. Nul. Jusqu'aux élections de l'automne 1945. Parce que les réformes, c'est des réformes qui ont duré un an. Ce qui est la base de ce qu'on appelle notre spécificité française.
Revenons-en à De Gaulle. Les Américains n'ont pas réussi à s'en débarrasser et se gardent bien de l'informer du débarquement du 6 juin 1944. De Gaulle débarque littéralement après la bataille.
Il est allé pied dans l'eau pour débarquer en juin 1944. Et les États-Unis attendent le 23 octobre 1944 pour reconnaître officiellement le gouvernement provisoire de la République française. 23 octobre 1944. Entre-temps, le gouvernement français n'est pas reconnu. compte tenu de ce que les Américains sont tout à fait rassurés sur les intentions de De Gaulle, il est absolument indispensable, De Gaulle étant de fait incontournable, d'exercer une partie énorme de la réalité du pouvoir. On le voit très bien, d'ailleurs, dans la correspondance du BCRA.
BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, les services secrets gaullistes basés à Londres.
Au tournant de 1942, et à partir de 1943, et encore plus en 1944, on a des rapports du BCRA, très clairs. Le BCRA est à l'image de De Gaulle, c'est-à-dire un organisme de renseignement qui est tenu par l'extrême droite. Le chef est un cagoulard avéré, le colonel Passy de Vavrin qui se fera en 1953 embauché par la banque Vente est un homme d'extrême droite. Tout le BCRA était d'extrême droite. Et le BCRA, il reçoit des courriers de tonalité extrêmement progressiste depuis 1940. Il reçoit des courriers qui n'arrêtent pas de dire la classe ouvrière, elle souffre et elle n'est pas collabo, et la classe bourgeoise, elle ne souffre pas et elle est collabo. Les élites de plume, ben, il y en a quand même pas mal qui se conduisent bien. Il y en a... Bon, la grande bourgeoisie se vautre dans la collaboration. C'est ça les courriers du BCRA. Ce n'est pas la position des gens du BCRA. Et à partir de 1942, il y a un filtrage de plus en plus grand. Le BCRA privilégie de plus en plus les courriers qui montrent que une partie très importante de la bourgeoisie se conduit bien et que les industriels, ils ont fait semblant d'être collaborationnistes, mais les banquiers, mais pas du tout. Et on a des courriers de plus en plus élogieux. Bien entendu, la correspondance retenue par le BCRA, c'est celle qui atteste que, bon, de toute façon, puisqu'on n'a pas le moyen de faire autrement. Et c'est clair à partir du moment où De Gaulle l'emporte à Alger. Il faut se rallier à De Gaulle. Moi, j'ai cité des courriers d'un cynisme extraordinaire. C'est-à-dire, la très grande bourgeoisie a très bien compris qu'il faut se rallier chez nous. Par exemple, il y a un courrier qui vient de Lyon, une des organisations patronales qui a organisé les élections au moment où il y en avait, qui après a utilisé quelques crédits pour promouvoir la charte du travail, etc. Ben, il y a un correspondant bien pensant qui explique que c'est très bien, ces gens se rallient à nous. En même temps d'ailleurs que cette même grande bourgeoisie sonde l'armée secrète en 1944 pour faire écrabouiller la résistance communiste. Et pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas réussi à utiliser l'armée secrète qui était constituée de tas d'éléments, je dirais, fort raisonnables et même souvent très réactionnaires? Il y avait le rapport de force général dans la population, c'est quand même difficile de faire zigouiller les communistes en 1944, hein. Mais bien entendu que la grande bourgeoisie s'est ralliée à De Gaulle. Qu'on aille chercher, par exemple, le témoignage de Bloch l'aîné dans ce très remarquable ouvrage « Profession fonctionnaire », il a déballé un peu. C'était en 1976, parce que Giscard d'Estaing l'avait viré du Crédit Lyonnais et qu'il a considéré qu'il fallait quand même régler un peu de compte. Il raconte la manière dont se font les ralliements de la grande bourgeoisie et il dit « Oh là là, j'ai été écœuré à la libération de Paris, de voir ces grands bourgeois qui avaient même boudé mon père, parce que son père, juif de très grande bourgeoisie, s'était fait virer des cercles en 1940, et que ces gens, tout d'un coup, comme dit un diplomate connu, on a plein de diplomates, on en voit à partir de 1944, qui troquent directement leur Francisque pour la Croix de Lorraine. D'autant que De Gaulle a passé son temps depuis la fin 43 à dire aux Américains, écoutez, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que moi qui puisse rentrer en France et régler leur compte aux communistes, c'est-à-dire les empêcher d'être efficaces. Vous le savez très bien. Il a raison. Ça ne peut pas être fait par les copains ouverts de Vichy. C'est impossible. Donc, il y a chez les Américains ce mélange entre... évidemment la nécessité de ne pas empêcher ce qu'on ne peut pas empêcher, qui aboutit à la reconnaissance de De Gaulle le 23 octobre 1944. Hein ? Il y a donc cette situation-là et le maintien d'une opposition féroce parce que De Gaulle ne veut pas lâcher l'Empire, bien que De Gaulle soit pratiquement impuissant sur cette question. Les Américains savent très bien que tout ce qu'il pourra faire pour critiquer leur politique allemande, ou presque il le fera. C'est ça la contradiction. C'est ça la complexité. Percevoir un rapport de force, ça relève ça de l'appréciation d'une complexité. La complexité, ça consiste pas à dire « je vais rien vous raconter parce que c'est compliqué ». La complexité, ça consiste, de la part d'un historien, à montrer des contradictions. Eh bien oui, il y a des contradictions dans la position américaine. Oui, d'ailleurs, il y a des contradictions considérables dans la position de De Gaulle. De Gaulle sait très bien qu'il vient pour mettre en œuvre une ligne d'écrasante suprématie américaine. Il n'a pas été d'une très grande efficacité, on le voit. De Gaulle, pourquoi il s'en va en janvier 46? Il fait croire que c'est passé à cause des communistes, pas du tout. Quand il dit « je m'en vais parce que notre position est tenue sur le Rhin, que l'Empire est intact », il sait très bien que c'est absolument faux. Et il a le souci de ne pas prendre la responsabilité de cet échec. S'il y a un homme, si arrogant qu'il soit, si prétentieux qu'il soit, conscient des rapports de force, c'est bien De Gaulle. Et la position de faiblesse, la position d'infériorité dans laquelle il a été de 1940 à 1943-44 permet de comprendre à quel point il avait le sens politique. Bien entendu qu'il était tranquille à partir de 1944, il pouvait faire comme si le Parti communiste n'existait pas. Il était tenu en ça, je dirais, par cet ce soutien américain, soutien involontaire mais soutien forcé, qui faisait que l'intérêt était commun. Et là, on arrive à une question centrale. Les positions respectives sont toujours des positions de classe. De Gaulle a une position de classe. De Gaulle est l'homme de la contradiction. Ses positions de classe ont été contradictoires, je dirais, avec son ambition nationale. Mais pour le reste, De Gaulle est un homme très réactionnaire, qui déteste la révolution, qui déteste le mouvement ouvrier. C'est un homme des milieux militaires, mais c'est un homme intéressant par cet aspect contradictoire qu'on ne retrouve chez aucun de ses semblables. Les Américains le détestent, ils ne peuvent pas faire sans lui. Ils font tout pour l'affaiblir, cette fois-là comme la suivante. Ils font partie de ceux qui ont contribué à le faire revenir, pour le haïr autant qu'avant, et pour contribuer à essayer de le faire trucider. On ne va pas le raconter aux gens sous prétexte que c'est complexe.
Depuis que les collabos sont restés en place après le débarquement en Afrique du Nord, la grande bourgeoisie métropolitaine est rassurée. La France ne sera pas épurée.
Chacun sait qu'il se passera en France ce qui s'est passé à Alger. Et c'est d'ailleurs au sein de manquements ahurissants qu'on peut adresser à ce que j'appelle l'historiographie bien pensante. Parce que qu'est-ce qu'elle retient d'Alger? Elle retient l'exécution de Pucheux.
Pierre Pucheux, ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement de Vichy, qui, ayant senti le vent tourner, se rend à Alger pour tenter de se badigeonner une légende de patriote.
Mais les archives permettent de démontrer ce qu'est le caractère tactique de l'exécution de Pucheux. Les conditions même d'organisation du procès de Pucheux montrent qu'il ne se passera rien en France, y compris dans la procédure contre Pucheux. Pucheux, c'est une vacherie de De Gaulle pour prévenir juste un peu les Américains. C'est tout. Tous les procès obéiront à la logique de la procédure de Pucheux, puisque on sait tout à Alger sur Pucheux et qu'on n'exploite quasiment rien de ce qu'on sait. Donc, le croisement des sources, le suivi de la ligne, la non-épuration établie à Alger atteste que les élites ne pouvaient pas du tout se faire de soucis. Elles avaient les leurs. Alors quoi, c'est René Meyer, parce que il est commissaire, mais René Meyer, c'est un homme de la grande bourgeoisie juive qui a fait toute sa carrière au service de Rothschild Et Rothschild y fera comme toute la grande bourgeoisie juive, qui est menue en France, hein. Eh ben, il s'empressera, et il s'empresse déjà à Alger, d'oublier tout ce qui s'est passé. Ça fera exactement comme quelque chose que m'a raconté un héritier d'une importante société qui est venu me voir il y a quelques années. Il voulait attaquer l'État sur le non-remboursement de sa famille. Et c'était une famille qui était très liée à Blum et à Cain Salvador, collaborateur de premier plan de Blum. Et ce témoin, son père, au moment où on savait qu'allait être publié le décret sur les Juifs, son parent vient voir Cain Salvador et effrayé lui dit que quelque chose se préparait contre les Juifs. Et Cain Salvador lui dit « on n'est pas concerné ». Ce sont des choses qui sont indicibles aujourd'hui, mais que les archives contraignent à dire, parce que c'est vrai. C'est quelque chose qui est mis à l'avant aujourd'hui, on a l'impression vraiment que tout a été déterminé en fonction de ce qu'on pensait du martyr des Juifs, etc. Pas du tout. Ces gens s'en fichaient comme de Colin Tampon. Je l'ai montré d'ailleurs en citant une réunion d'un comité de la Banque de France sur l'indemnisation des banques, de la Banque de France et l'indemnisation des Juifs. Mais celui qui lit le compte-rendu de 1945 de cette question de l'indemnisation de la Banque de France pour les 10 milliards qui correspondaient à l'or belge qu'elle avait volontairement livré à l'Allemagne, je le rappelle, cet or belge, c'est 200 tonnes d'or belge, la Banque de France se mettait en tête de se faire rembourser ça par le contribuable. 10 milliards de francs. Parce qu'il avait fallu rembourser aux Belges et tout ça et tout ça. Alors, moi, comme exemple, parce que ça a été très à la mode ces derniers temps, là, là, qu'est-ce qu'on a aimé les Juifs en France, et qu'est-ce qu'on a fait pour eux et tout ça, et la République a cherché à leur rendre service. Ah bon ? Que les gens qui le pensent aillent regarder cette réunion de 1945 où il est question de l'indemnisation des 10 milliards d'une Banque de France qui avait livré volontairement 200 tonnes d'or belge aux Allemands. Et un juriste qui montre un petit peu de sens moral dit, enfin, on va indemniser la Banque de France et on ne va pas indemniser les Juifs et on ne va pas indemniser toutes les victimes de guerre, de bombardement, tout ça. Ah, dit l'autre, le représentant des banques, la question des Juifs est une question particulière, tandis que la question de la Banque de France est une question d'intérêt national. C'est complexe, ça ? Donc, juif ou pas juif, résistant ou jamais résistant et vichiste presque jusqu'au bout, ça ne ferait pas de différence dans la gestion de la France. C'est comme ça. Et ça me rappelle ce que disait ma mère. Ses parents venus de Pologne lui avaient dit qu'en Pologne, victime de pogroms sélectifs, on disait qu'un juif riche était un riche et qu'un juif pauvre était un juif, à une époque où les juifs étaient persécutés. Voilà des choses historiques qu'il convient de rappeler pour se rappeler que même cette question est réglée sous l'angle de la classe.
C'est ici la fin de ce nouvel entretien avec Annie Lacroix-Risse qu'on remercie. Notons qu'en 2021, le gouvernement a décidé de refermer des archives concernant les années 30 et 40. Mais alors, ne versons surtout pas dans le complotisme, hein, et n'allons surtout pas imaginer que ces fermetures d'archives ont pour but d'épargner les élites industrielles et bancaires et leurs descendants. Mais comme l'écrit à ce sujet le Canard enchaîné du 3 mars 2021, ouvrez les guillemets, les experts, même militaires, considèrent que la grande majorité des secrets s'épuisent au bout de 10 ou 15 ans. Le délai de libre communicabilité, porté par la loi de 2008 à 50 ans à compter de la dernière information protégée, est déjà un compromis très large. Mais certains hauts fonctionnaires veillent à ouvrir le parapluie encore plus largement. Comme s'il existait de honteux secrets politico-militaires qu'il faudrait couvrir. Ad vitam aeternam, écrit le Canard enchaîné, qui est un journal complotiste, comme chacun sait. La La suite de cette lugubre histoire qui est la nôtre, c'est sur cette même antenne au prochain épisode de cette émission que tu peux aussi réécouter sur notre site polymixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G 101.5 FM.